comme la France.
On parle de Paris 2024, c'est vrai que toi, originaire de Pau, on en parlait tout à l'heure, tu prouves un attachement particulier pour la ville, pour le département des Pyrénées-Atlantiques, pour la région Aquitaine. Tu retournes dès que ton emploi du temps le permet. Comment tu veilles à ce que Paris 2024, justement, soit une fierté nationale et pas uniquement un sujet pour les Parisiens?
Je crois qu'on est en train de porter un nouveau modèle de jeu. Je crois que les Jeux de Paris 2024 ne ressembleront pas aux dernières éditions. On a, je crois, depuis le départ, ce souci, j'allais dire, cette obsession de faire les choses différemment et d'inverser un peu la logique. En fait, si on organise les Jeux, c'est pas pour organiser un spectacle de plus, un événement sportif de plus, c'est vraiment pour, encore une fois, changer la place du sport dans ce pays. Et c'est pas simple, parce que je mesure tous les jours combien le sport est sous-considéré et a tendance à passer vraiment après tout le reste, alors que toutes les semaines, nous sommes des millions à nous dire qu'on a besoin d'avoir des moments d'aération, des moments où on va prendre l'air, se défouler, s'occuper de soi, pratiquer le sport, inculquer à nos enfants, aux nouvelles générations, le respect des règles, de l'arbitre, de l'adversaire, comment on essaie de se surpasser pour aller un cran plus loin et dépasser ses propres limites. C'est tout ça le sport. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, beaucoup de gens qui y croient, mais en fait, on est un peu quand même dans un système opaque où quelque part, on est tous convaincus que c'est important, mais on ne veut pas l'admettre. Et on ne veut pas donner la chance au sport de vraiment apporter des solutions dans les difficultés que rencontrent les Français.
Quand tu as dirigé la candidature, vous avez, au niveau de Paris 2024, choisi une signature qui a été très différenciante, pas forcément toujours comprise, parce que c'est vrai qu'elle était déjà en anglais, c'était « Made for sharing », donc « Venez partager ». Ce qui est intéressant, quand tu parles de la volonté que vous avez au niveau aujourd'hui du COJO et de Paris 2024, c'était de parler de ces jeux inclusifs, de dire que ce n'est pas uniquement, comme tu dis, de venir faire la fête, aller sur la fan zone, mais ce sujet était intéressant parce que Los Angeles, qui était le concurrent final, qui a évidemment perdu et qui a gagné les Jeux 2028, avait, lui, une signature que tu connais parfaitement, qui était juste l'inverse de Paris 2024, parce que c'était « Follow the sun ». Donc en gros, pour bien comprendre, c'était suivre pas uniquement le soleil, mais il fallait comprendre l'image, la métaphore qui était Los Angeles, le soleil, et puis vous allez suivre ceux qui vont créer
la réussite,
le monde. Mmh. Le message que tu portes et que vous portez au niveau de Paris 2024, qui est justement ces jeux inclusifs. Donc, c'est pas uniquement un effet de manche, votre objectif c'est vraiment de faire que les jeux portent beaucoup plus qu'uniquement sur le mois de la compétition.
Exactement, je crois que c'est vraiment dans notre ADN de proposer un nouveau modèle où l'héritage n'est plus uniquement basé sur des infrastructures qu'on va construire, mais plutôt sur comment on se préoccupe des gens et comment est-ce que ce projet il est humaniste. Et le sport, s'il y a bien un domaine qui crée du lien, qui crée des émotions, qui se préoccupe encore une fois de l'humain, c'est bien le sport. Et notre volonté aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu disais, d'avoir des déclinaisons un peu dans tout le pays, qu'on soit ou pas un territoire qui va accueillir une compétition, on peut aujourd'hui se raccrocher à cette dynamique nationale autour de la place du sport, pour qu'il y ait plus de sport dans les écoles, pour qu'il y ait plus de sport dans les clubs, pour qu'on facilite l'accès à la pratique sportive dans des infrastructures. Mais des infrastructures, encore une fois, ce ne sont pas de nouveaux stades, ce sont des espaces de pratique que l'on peut ouvrir, on peut optimiser ces espaces de pratique et faciliter l'accès à la pratique sportive. Et nous, c'est vraiment l'ambition que l'on se fixe aujourd'hui, d'avoir la possibilité de réussir ce pari, de démontrer que le sport est utile dans notre quotidien.
Quand on parlait de cette course à la victoire des JO 2024, tu t'es retrouvé en finale face à celui qui représentait donc Los Angeles, qui est donc Casey Wasserman, qui défendait donc la candidature. C'est le petit-fils d'un magnat d'Hollywood, un proche de la famille Clinton, un habitué des sphères d'influence et des jeux de pouvoir. Comment se procure-t-on les armes face à ce type d'adversaire, Tony?
Je pense que tout nous opposait, en fait.
Oui, je te le confirme.
Effectivement, je crois que nous, on a joué sur l'authenticité de notre projet, un projet porté par des athlètes qui croient au sport pour les vertus et ce qu'il apporte dans le quotidien, dans notre éducation. On a grandi grâce au sport. Le sport a changé nos vies, On a envie aujourd'hui que le sport change la vie de millions de personnes. Et si on s'est aventuré dans ce projet, ce n'est pas pour vouloir faire des bénéfices et d'avoir une approche très marketing du sport professionnel. Là où effectivement les Américains étaient vraiment sur ce discours en disant nos jeux vont passer une nouvelle dimension dans le gigantisme et dans l'argent qu'on va réussir à générer autour de ce projet. On a pris un peu le contre-pied, nous on a dit nos jeux seront sobres, on ne va pas construire d'infrastructure pour les jeux. C'est pas pour cela qu'on s'est embarqué dans cette aventure, on ne veut pas dépenser de l'argent. En revanche, ce qu'on veut vraiment c'est de réussir à mieux optimiser la place que présente le sport dans ce pays. Et donc je pense qu'on a eu des discours complètement opposés, on a joué avec nos cartes, je crois que voilà, on est resté nous, même si tout nous opposait et qu'on aurait pu se dire « Oula, attention, en face, c'est des poids lourds, du marketing, des grosses entreprises, c'est des fortunes et les membres du CIO vont être appâtés par cet argent », à l'inverse, on a tenu bon. Et moi je crois qu'en général on gagne sur ses points forts, et nos points forts c'était l'authenticité de notre projet avec des athlètes qui étaient embarqués. On a plus de 1000 sportifs de haut niveau qui se sont vraiment mobilisés pour aller dans les écoles, pour aller au contact de la population et réussir à démontrer que ce projet va être collectif.
D'ailleurs, on peut se souvenir qu'en 2017 il y avait la journée olympique, qui est donc le 23 juin, cette journée olympique qui était à l'époque, je ne sais pas si c'était le 22, mais en tout cas c'est le 23 juin cette année, et les images étaient exceptionnelles, puisque ces images où on a vu des gens plonger dans la Seine, on a vu
la piste d'athlétisme sur la Seine, du trampoline dans le Grand Palais, c'était dingue.
Quand à l'inverse, le même jour, tu avais la même journée olympique qui avait lieu à Los Angeles, où là, ils avaient fait sur une plage de Los Angeles un petit happening avec quelques centaines de personnes. Mmh. Et c'est vrai que c'était assez marquant, la différence de projet, où ici c'était extrêmement de nouveau inclusif, où les gens pouvaient participer, pouvaient justement essayer, tester, tenter de nouvelles choses, avec la beauté qui est la beauté de notre ville, il faut dire ce qu'il est, et la beauté de ce pays également. Sur cette course à la victoire, puisqu'elle a duré... T'as rejoint le projet au démarrage avec Bernard Lapassé à l'époque, et c'est un marathon. Paris l'emporte. En quoi cette victoire est différente de celle que tu as vécue en tant que sportif, en dehors du fait que c'était une victoire collective?
Ouais, alors c'est déjà un premier point. C'est vrai que moi, ce qui m'a impressionné dans ce projet, c'est la capacité qu'avait Paris 2024 à fédérer des acteurs d'horizons complètement différents. Que ce soit au niveau politique, où on a eu quand même un soutien très collectif avec des acteurs qui, normalement, sont moins collectifs, et qui là, pour le succès de la cause, se sont vraiment alliés pour montrer le meilleur visage de la France, et c'était vraiment fascinant. Mais ce sont des partenaires sociaux, des entreprises, le mouvement sportif, la société civile, voilà, tous ces acteurs-là qui ont envie de contribuer à la réussite et de se dire ce projet me fascine, ce projet j'en ai envie et j'ai envie d'aider à ce que ça fonctionne. Et c'était tellement grisant de se retrouver embarqué dans cette aventure avec beaucoup de bienveillance et d'énergie positive pour que les gens se disent ce pays est grand, ce pays doit être ambitieux, dynamique, optimiste, et ce projet incarne tout ça.
La seconde où tu es sur l'estrade à Lima en septembre 2017, quand Paris gagne vraiment les Jeux, même si c'était préannoncé parce qu'il y avait un accord qui avait eu lieu avec le CIO et Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où tu vois Paris et t'es sur scène la seconde d'après?
Ouais, c'est une émotion parce que, encore une fois, moi je le reconnais, il y a des moments de doute. Tu parlais de ça au tout début de l'interview. Rien ne prédestinait Tony Estanguet à la tête de ce genre de projet. Moi j'ai beaucoup appris, mais c'était pas mon univers, la politique c'était pas mon truc, et c'était un pari un peu fou de se retrouver là au milieu et de devoir prendre des décisions, d'arbitrer dans des directions, des choix stratégiques forts, et c'était un peu quelque part la première fois que je réussissais en dehors de mon sport. Donc c'est une émotion immense parce que j'avais besoin aussi de me prouver que j'étais capable de faire autre chose que du canoë-kayak.
Tu aurais pu prendre un plus petit projet quand même.
Non, mais c'est vrai.
Projet 6 milliards, c'est quand même. Ouais.
On retrouve un peu l'ambition des sportifs de haut niveau, probablement, mais l'émotion était très grande parce que quelque part, je jouais gros là-dedans aussi. C'était le début de ma reconversion. Et si on n'avait pas réussi, ça aurait été sûrement plus compliqué derrière.
Souvent, les entrepreneurs avec qui je passe du temps, quand tu les connais assez bien, il y a toujours une faille, quelque chose qui fait qu'ils ont ce booster, cette volonté, comme tu dis, de voir les choses un peu plus en grand. Toi, elle est où cette faille-là? C'est vrai, quand je te vois, quand les gens te voient, t'es le genre idéal. Je t'ai dit au début, t'as toutes les qualités du monde, t'es sportif, t'es intelligent, tu parles bien. Elle est où cette faille? Elle est réelle? T'as réussi à la définir?
Non, je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose. Je me sens toujours un peu assoiffé de vouloir aller sur le combat d'après. Un peu ce côté perfectionniste permanent de se dire, bon, ce combat, on l'a gagné.
Le prochain.
C'est quoi le prochain,
prochain.
Alors, ça use un peu l'entourage, hein, parce que c'est toujours un peu difficile. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je cours toujours après quelque chose et je n'arrive pas à me satisfaire quelque part de ce que j'ai fait. De quoi ça vient, je ne sais pas. Je pense que c'est ce milieu sûrement un peu de confrontation, de rivalité que j'ai toujours eu depuis tout petit, quand vous êtes le dernier d'une famille où tout le monde a réussi avant vous,
ça met une petite pression
et vous dites, il va falloir qu'en permanence je sois bon, parce que sinon, soit on va se moquer de moi, ou en tous les cas on va me juger, on va décevoir.
Ou prendre une autre voie, toi en plus t'as pris la même voie.
Et j'avais envie, voilà, de trouver ma place dans tout ça et de pas être le dernier, quoi. Et donc cette course-là, moi je l'analyse comme cela, avec toujours l'envie d'aller plus loin, de se dire comment. Même aujourd'hui, je pense que Paris 2024 a gagné sur un projet exceptionnel qui a impressionné le monde entier. Mais je pense qu'aujourd'hui, 18 mois après notre victoire, ce projet il est encore plus fort parce qu'on s'est autorisé à aller le challenger, à aller l'améliorer. Et ça, on va le faire jusqu'à la fin. Alors que d'habitude, dans l'histoire des jeux, on a plutôt tendance à... On vous avait promis ça, mais finalement, on ne va pas le faire parce que c'est trop compliqué. Ou là, nous, on rajoute systématiquement des projets parce que ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé ce projet, ces jeux, et on a vraiment envie de révéler le meilleur de ce pays.
De parler justement de ces évolutions, on va en citer une en tout cas. C'est la première fois qu'une discipline, le marathon, va être ouverte au public. On parle des nouveautés, ça c'en est une incroyable, dingue d'ailleurs. Quand tu m'avais parlé de ça il y a quelques mois de ça, c'était juste, est-ce que c'est faisable? Et voilà, c'est faisable. Alors pourquoi ce choix?
C'est cette volonté vraiment d'ouvrir les jeux au maximum. On ne veut pas organiser les jeux juste pour quelques sportifs de haut niveau. C'est un nouveau modèle, on veut que ces jeux vraiment... le maximum de personnes puissent s'en bénéficier. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, il y a effectivement quelques épreuves sportives qui seront ouvertes au grand public pour que des milliers de Français puissent vivre de très près l'ambiance des Jeux, la magie des Jeux, cette effervescence incroyable. Et c'est aussi quelque part pour donner envie. Moi, j'ai grandi grâce au sport. J'ai envie qu'il y ait aujourd'hui des milliers, des millions de gamins qui se disent « Waouh, c'est chouette !» Et j'ai envie moi aussi de faire du sport. Et pour ça, il faut des promesses très belles, très différenciantes. Et d'ouvrir le marathon, d'ouvrir une épreuve de cyclisme, de pouvoir aller dans certains sites comme Roland-Garros ou d'autres, aller faire du sport. Normalement, c'est inaccessible. Et bien, pendant les Jeux, ce sera possible.
Tu as aussi annoncé récemment les nouvelles disciplines. Nombreuses réactions, comme tu le sais. Que réponds-tu à ceux qui auraient préféré la pétanque au breakdance?
Ça n'a pas été un choix facile, hein. Franchement.
Combien vous avez auditionné?
On a reçu 19 fédérations internationales. Il y avait un petit peu plus de projets, mais 19 fédérations internationales avaient un projet digne de pouvoir rentrer au programme des Jeux. Et j'avais 4 places. Donc c'est vrai que forcément, il y a plus de déçus que de gens contents. Moi, ma logique, c'était vraiment de dire... Les Jeux, qu'est-ce que ça représente pour moi? Les Jeux, ça représente la diversité de tous les sports. Ce qu'on aime aux Jeux, c'est qu'en 15 jours, on va passer de l'athlétisme au basket, au canoë, au tir à l'arc. Enfin, on voit vraiment un éventail incroyable de toutes ces pratiques sportives. Et quels sont les sports, dans les 28 qui sont déjà au programme, quels sont les sports, les univers qui ne sont pas du tout représentés? Pour nous, il y a deux univers qui n'étaient pas suffisamment représentés. C'était les sports urbains, qui sont de plus en plus pratiqués. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers le skateboard et le breakdance, qui sont vraiment des disciplines très urbaines, très faciles à pratiquer. Alors certes, aujourd'hui, qui ne sont pas fédérés comme les autres, et il y a un potentiel là de mieux organiser ces pratiques-là pour qu'elles soient encore plus accessibles au plus grand nombre. Et puis, c'est des sports très spectaculaires, comme le surf et l'escalade, qui là aussi proposent vraiment un univers qui n'était pas du tout coché aujourd'hui dans les 28 sports actuels. Mais donc voilà, moi ma priorité c'était de dire, on a 28, on peut en rajouter 4, comment est-ce que ces 4 nous permettent d'aller toucher des univers qui ne sont pas du tout aujourd'hui associés au jeu? Et c'est pour ça qu'on a fait ce pari, orienté aussi vers la jeunesse, parce qu'on va pas se le cacher, aujourd'hui les statistiques ne sont pas bonnes, les jeunes font de moins en moins de sport, l'obésité gagne du terrain, la sédentarité gagne du terrain, les jeunes aujourd'hui passent chaque année un peu plus de temps sur des écrans, télé, téléphone. Comment est-ce que nous, on apporte des solutions pour attirer, motiver les jeunes à sortir, à faire du sport, à se bouger? Et c'est plutôt en allant vers des sports qu'ils regardent justement sur les téléphones et sur les tablettes. Et les vidéos les plus consommées aujourd'hui sont celles de surf, du breakdance, enfin les sports qu'on a choisis.
En effet, une volonté de vivre avec son temps. Ma fille de 9 ans, qui est danseuse hip-hop, est très contente parce qu'elle peut peut-être voir une projection, pour pas ceux de Paris, mais peut-être après. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces sports-là sont souvent testés ou pré-testés. Je sais que ce que vous aviez vu, ce que tu avais vu, toi, à Buenos Aires, pour les Jeux de la Jeunesse, c'est là où vous avez vraiment vu l'impact considérable qu'avait justement le breakdance, qui était une épreuve là-bas, qui, à mon avis, aussi a joué positivement sur l'impact et sur le choix. Et
non, on s'est vraiment donné les moyens de faire ça très sérieusement, de regarder très précisément les caractéristiques de ces sports-là, d'aller observer des compétitions et de voir le potentiel que ça pouvait générer.
Donc, et là, c'est Tony qui prend sa décision à la fin. C'est un comité que vous avez mis en place pour faire ça. Est-ce que à chaque fois, c'est le CEO qui va forcément adouber à la fin, mais est-ce qu'il est aussi présent au départ?
Non, le CEO reste, encore une fois, le propriétaire de l'événement et celui qui valide ou pas la décision. Mais c'est bien notre proposition que nous assumons complètement et que nous avons pris, nous, à Paris 2024.
Quand on parle des Jeux, on parle évidemment d'athlètes et de médailles. Alors on va commencer par les athlètes. On sait que très peu, et tu fais partie, on a cité Kevin, Meyer, Martin, Fourcade, très peu peuvent en vivre ou vont en vivre pour le reste de leur vie. Comment faire d'après toi et comment Paris 2024 va travailler justement pour ces centaines, ces milliers, si on est juste athlète français, mais c'est pas uniquement pour les Français, qui ont décidé de consacrer leur vie, alors souvent pour un drapeau, parce qu'il représente, et c'est l'amour que tu as toi pour notre pays et pour le drapeau qu'il représente. La difficulté, comme tu le sais, c'est que certains après ont des vraies difficultés. Est-ce que vous pensez, à Paris 2024, faire des programmes spécifiques, les aider, les réorienter, les former après? Est-ce que c'est un sujet majeur pour toi?
Ouais, je te remercie pour cette question, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, et souvent les gens mélange un peu beaucoup de choses. Les gens pensent que qui dit sportif de haut niveau dit sportif qui gagne beaucoup d'argent. Or, la réalité, c'est qu'en dehors des 3 ou 4 sports dits professionnels, la très grande majorité des sportifs de haut niveau qui représentent la France un peu partout dans le monde, dans les épreuves internationales type championnat du monde, galèrent. Voilà, on a aujourd'hui beaucoup trop de sportifs de haut niveau dans nos équipes de France qui vivent encore sous le seuil de pauvreté, qui ne sont pas du tout aidés et qui sont subventionnés par leurs parents, leurs entourages, mais qui ne perçoivent aucun revenu de leur pratique. Il faut, et je suis un bon exemple pour ça, il faut devenir champion olympique pour commencer à avoir un premier sponsor, alors qu'on pourrait se dire que pour devenir champion olympique, c'est bien d'être accompagné. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, que les gens autour de moi m'aient aidé pour atteindre le très haut niveau. Mais mon premier sponsor, je l'ai signé après mon premier titre olympique. Donc ça montre qu'on marche un peu sur la tête.
Qui t'a fait confiance au départ ? Premier sponsor, t'en souviens ?
C'est un équipementier, c'est Adidas, qui a été mon premier sponsor. Alors, les collectivités territoriales, la ville de Pau, le département, la région m'aidaient un petit peu, mais je n'avais pas de marque qui m'aidait à ce moment-là. Et donc, oui, on a envie, nous, d'apporter cette contribution. Aujourd'hui, on essaie d'embarquer les partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques dans l'accompagnement des athlètes. Et donc, on va trouver des solutions aussi pour préparer leur reconversion. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille. Et notamment, je sais que tu es aussi très sensible à ce sujet-là, sur comment on donne des outils pour que les athlètes puissent à la fois réussir leur performance, mais aussi pour certains qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui ont des projets de reconversion, comment est-ce qu'on les aide à façonner leur projet. Parce qu'encore une fois, on ne va pas trouver des solutions pour professionnaliser tous les sportifs de haut niveau et leur donner suffisamment d'argent pour qu'ils puissent vivre toute leur vie. Il faut accepter d'office qu'on gagne, on a une vie pendant qu'on est sportif de haut niveau et qu'au lendemain de sa carrière, il faudra, quoi qu'il arrive, se trouver un travail. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire fi de tout un parcours de formation. Il faut absolument réussir à combiner quelque part un peu les deux voies sportives et préparer un peu la suite.
Ce que font mieux les États-Unis, c'est vrai que les sportifs américains, dès le collège, enfin pour eux c'est l'université, c'est très mis en avant. C'est vrai qu'en France, et ça rejoint ton point initial, si tu es sportif, c'est que globalement, tu ne vas pas pouvoir forcément continuer tes études.
Exactement.
Et donc, il y a une sorte de vision qui est totalement fausse, qui fait que tu dois faire une chose et pas deux. Donc, ce qui est important, ce que tu dis ici, c'est que...
Il faut faire évoluer les mentalités
en France. Et donc là, je pense que les jeux portés par toi vont aider à ça. Et en effet, je sais que vous travaillez là-dessus. Il faut absolument trouver... les moyens de former et d'accompagner. De nouveau, il faut le dire, les auditeurs le savent, parce qu'ils voient peut-être uniquement ce qui fasse émerger de l'iceberg une fois tous les 4 ans pour les championnats du monde. Tout le monde se passionne pour ces sportifs qui t'en es un exemple, qu'on se craque tous les jours, matin, midi et soir, pour avoir cette médaille, pour avoir la Marseillaise qui jouait. Donc il faut de nouveau essayer de trouver des manières, des moyens d'accompagner ces individus qui donnent leur temps.